On va continuer à parler de la vie avec la maladie et je vous propose une petite pause cinéma. Nous allons regarder l'extrait de l'émission Voyage au centre de la mémoire qui a été diffusée sur France Télévisions en septembre dernier. Dans cette émission, Agathe Natanson-Marielle, qui va nous rejoindre dans une minute, racontait l'arrivée de la maladie dans sa vie et dans celle de son mari, l'immense acteur Jean-Pierre Marielle. On l'écoute.
Je pars maintenant à la rencontre d'une femme qui a réussi à cacher la maladie de son mari pendant près de 20 ans.
Une carcasse de sanglier convoitée par les vautours.
À la mort de l'acteur Jean-Pierre Marielle en 2019, Agathe Natanson a pudiquement évoqué une longue maladie. Pas un mot sur cet Alzheimer qui l'a emporté et qu'elle accepte de me raconter pour la première fois.
Est-ce que vous me diriez quand est-ce que les premiers signes de la maladie sont apparus, Agathe ?
Je pense très très sincèrement que les premiers signes de la maladie sont apparus pendant qu'on jouait le Nouveau Testament.
C'était en 99, vous veniez à peine de vous rencontrer.
Voilà, hein. Ben oui, puisque voilà, on venait à peine de se rencontrer. Et en répétant, tout à coup, tout le texte qu'il avait appris s'est effacé. Donc, il a fallu qu'il réapprenne le texte. Ouais. Ça a été quand même un peu compliqué. Et la mémoire est devenue un peu
plus fragile.
Voilà. Je me souviens très vite l'avoir dit à ma fille en disant, écoute, il m'inquiète un peu. Je suis un peu inquiète. J'ai des doutes.
Et vous aviez formulé le mot Alzheimer ?
J'ai pas dit le mot, mais je l'ai pensé.
Vous avez parlé avec lui
Non. De ça ?
Ouais.
Jamais.
Alors comment on amène son homme à faire des tests pour cette maladie précisément ?
Alors, c'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, on va faire un petit contrôle. Là, voilà, il faut faire de temps en temps des petits check-up. Il est resté 2 secondes, il a dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je me tire. Et il est parti. Donc, si vous voulez, à partir de là, ça voulait dire que quoi qu'il arrive, Jean-Pierre ne voulait pas savoir rien de ce qui pouvait lui arriver au niveau de la mémoire et au niveau de ce qui se passait à l'intérieur de lui.
Et comment professionnellement vous vous êtes adapté à cette maladie qui progressait ? Parce que lui-même a dû prendre conscience qu'à un moment il n'arrivait plus à apprendre ses textes.
Oui.
Qu'est-ce que vous disiez ? Comment il justifiait le fait qu'il n'arrivait plus à apprendre ses textes ?
Il ne justifiait pas parce qu'il ne disait pas « je ne peux plus apprendre mes textes ». Il était bien plus malin que ça. Il disait « ça me barbe d'apprendre les textes ». Donc on peut faire avec une oreillette. Donc on va faire avec une oreillette.
Je voudrais qu'on regarde cet extrait.
On en est où là ?
La communion.
Quoi ?
La communion.
Il n'y aura pas d'Eucharistie aujourd'hui. Vous êtes tous bénis, allez où ? Du balai ! Dieu reconnaîtra Lucien.
C'est un très joli film.
Là, on était dans Pièce Montée, c'était en 2010.
Oui.
Vous étiez là dans les coulisses ?
Oui. Là, il avait l'oreillette. Moi, je lui soufflais le texte.
Tout le texte.
Tout le texte.
Donc, il répétait.
Il jouait le texte.
Il
répétait pas le texte. Il jouait le texte.
Vous avez raison. Il interprétait.
Voilà.
Votre texte.
Voilà.
Mais comment vous l'expliquiez à l'équipe autour ?
Alors,
comment vous disiez ?
Ça a été très difficile. Au départ, j'avais honte. Parce que cette maladie fait honte. On a honte pour le malade. On est gêné. Parce que comment vous dire ? C'est gênant de voir quelqu'un que vous aimez perdre certaines de ses facultés. Donc on arrivait sur le plateau, on me cachait, on me mettait dans des endroits très très secrets.
Donc il y a des gens qui étaient au courant, qui protégeaient votre secret.
Les gens de l'équipe.
Bien sûr, forcément. Vous étiez obligé de leur
dire. Les gens de l'équipe, forcément, voyaient.
Donc en fait, vous étiez une aidante avant l'heure. C'est-à-dire que vous ne vouliez pas que votre mari et le comédien qu'il est perdent de sa superbe.
Non, bien sûr que non. Je veux dire, le fait de pouvoir continuer d'arriver sur un plateau, de travailler, qu'on continue à le demander jusque vraiment très 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 tard dans la maladie, c'était magnifique pour lui. Ça l'empêchait de sombrer. Et du coup, il continuait à vivre normalement.
Voilà un très bel extrait. Alors Agathe Nathanson, Marielle, vous étiez l'aidante, voilà, on vient bien de le comprendre. Et puis, vous êtes aujourd'hui membre du comité d'organisation de la Fondation Recherche Alzheimer. Cette maladie d'Alzheimer, vous l'avez connue déjà par votre maman.
Oui.
Et donc, vous savez à quel point les choses peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, vous rencontrez énormément de personnes qui sont, de par votre investissement dans la Fondation, vous avez mesuré à quel point les choses sont vécues différemment.
Oui, totalement. C'était, à la limite, c'était pas la même maladie. C'est-à-dire que ma mère a eu la maladie très jeune, à 50 ans. Elle a commencé à faire des actes complètement... incongru, bizarre, totalement inattendu. Donc ça, c'était un petit peu déstabilisant, surtout que c'était il y a très très longtemps et qu'on parlait pas du tout de la maladie à l'époque. Donc je ne savais pas ce qui se passait. Et puis après, elle a effectivement perdu la mémoire, elle a tout perdu, mais elle est redevenue comme une enfant. C'est-à-dire qu'elle était charmante, elle était gaie et elle était comme une enfant. Elle riait beaucoup et voilà. Et après, elle s'est éteinte tout doucement comme une petite flamme. Il n'y a pas eu de moment, si vous voulez, c'était extrêmement douloureux parce que j'adorais ma mère. Donc, c'était extrêmement douloureux, mais il n'y a pas eu de violence.
Alors que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des cas pour lesquels ce n'est pas aussi tendre.
Ah bah évidemment, avec Jean-Pierre, j'ai juste vécu le contraire de ce que j'avais pu vivre avec ma mère. Alors si vous voulez, je me suis assez vite aperçue qu'il y avait un problème avec Jean-Pierre parce que j'avais déjà vécu des troubles très interpellants avec ma mère. Donc très vite, j'ai vu qu'il y avait des choses bizarres chez Jean-Pierre. Sauf que c'était une personnalité extraordinaire, donc ça pouvait se mélanger. On pouvait mettre ça sur le compte de sa personnalité, de son originalité personnelle, de son vécu. Mais très vite, quand même, j'ai compris.
Et puis, il y a la rançon de la gloire qui fait que c'est compliqué d'en parler. Hein, vous le disiez
oui.
Là, dans cet extrait. Avec qui vous en parliez à l'époque?
Avec personne.
Alors qu'Olivier Ladoucette dit que c'est important de pouvoir échanger.
Oui, c'était, à part le médecin, donc avec qui je pouvais en parler, mais c'est venu assez tard dans la maladie quand même, mais le reste du temps avec personne. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, j'ai caché à tout le monde, même les amis les plus proches, que Jean-Pierre était malade. Pour une bonne raison, c'est que Jean-Pierre n'aurait pas aimé qu'on le voie malade. Donc je l'ai préservé.
Vous avez triché en fait.
Oui,
c'est
j'ai
ça.
Joué la comédie.
Alors bon, c'était un peu votre métier, mais quand,
oui,
mais quand
métier,
même,
mais
c'était très lourd, je suppose.
C'était très très lourd parce que à la fois, ben, évidemment, j'étais très seule, et d'autre part, il fallait aussi, c'était pas très agréable de dire aux gens, mais non, ça va, mais non, il est à la campagne, mais non, enfin, voilà, on peut voir Jean-Pierre, non, on est à la campagne pour l'instant, Jean-Pierre est à la campagne, moi je suis revenue un peu à Paris. Enfin, il fallait toujours jongler avec mille choses pour que ça ne se sache pas.
Comment avez-vous évité l'épuisement, vous-même, en tant qu'aidante? Comment est-ce que vous repreniez votre souffle? C'était encore plus compliqué puisque vous n'en parliez pas.
Je ne l'ai pas repris, mon souffle. Je ne l'ai pas repris. J'ai vécu épuisée. J'ai vécu détruite. Et je suis encore chargée de tout ce que j'ai vécu avec Jean-Pierre. Enfin, la période de cette... voilà. Alors, ce qui peut-être m'a tenue, c'est que j'aimais Jean-Pierre. Donc, à partir de là... tout était possible pour lui, jusque vraiment un épuisement total qui a fait que le médecin m'a dit « Maintenant, c'est plus possible, tu ne peux plus le garder à la maison, il faut qu'il aille quelque part. » Parce qu'évidemment, je ne voulais pas qu'il aille quelque part et j'étais privilégiée par rapport à beaucoup de gens parce que j'ai été aidée. Mais néanmoins, Jean-Pierre, ce qu'il voulait, ce n'était pas qu'on l'aide, ce qu'il voulait que je sois là.
Un jour, vous avez accepté, vous avez admis que rester à la maison, c'était plus du tout possible, que c'était même peut-être dangereux.
Oui.
Hein, et vous avez accepté...
Non, je n'ai pas accepté. Je suis allée une première fois voir une maison, très très bien. Je suis entrée, tout ça, c'était très joli. Il y avait un parc, il y avait une directrice très accueillante, en rose, je m'en souviens très très bien. Je l'ai vue, on a parlé, j'ai visité et j'ai dit, il n'ira pas. Donc je l'ai encore gardé, je ne sais plus, peut-être 6 mois ou 3 mois, j'ai plus la notion du temps. Et puis là, c'était vraiment plus possible, donc je suis retournée revoir la dame qui m'a très bien reçue. J'ai été, séduite, c'était très bien.
Rassurée peut-être?
Non.
Toujours pas.
J'étais déchirée, c'était horrible pour moi. Mais je voyais que l'endroit était bien. Et bizarrement, Le jour où j'ai emmené Jean-Pierre, évidemment, on n'en a pas parlé parce que Jean-Pierre était dans un déni total. Donc, je ne sais plus, on a dû faire une petite valise ou pas, je ne me souviens plus très bien, mais on a pris la voiture, on est allé dans cet endroit qui n'était pas très loin de chez moi, mais un peu en banlieue, et on est arrivé. Jean-Pierre n'a rien dit. Il s'est assis dans un fauteuil, il a regardé autour de lui, comme ça. Et puis, j'ai dit, tu vas rester là cette nuit. Et puis, il n'a toujours rien dit. Et puis il est resté, je lui ai dit au revoir, et puis moi je suis partie.
Quand on a préparé ces entretiens, vous m'avez dit, assez vite, je l'ai trouvé apaisé.
Oui, il était beaucoup moins agité qu'à la maison, il déambulait beaucoup, mais ça c'est une chose de la maladie, mais il n'avait plus les accès de violence et les accès de panique et d'anxiété, j'imagine, qu'il avait à la maison. Donc oui, je l'ai trouvé, c'était extrêmement douloureux de le savoir là-bas, mais à la fois c'était, contrairement à ce que disait le docteur de la Doucette, moi je ne me suis pas sentie coupable, parce que j'ai senti qu'il n'y avait pas d'autre issue. Donc j'étais pas coupable. J'allais le voir, je lui apportais des jus de fruits, des yaourts, enfin bref, ce qu'il aimait, mais j'étais pas coupable. Et pourtant, j'ai tendance à être coupable assez facilement. Mais là, non.
Vous avez choisi ensuite de vous engager auprès de la Fondation. Pourquoi ?
Alors, je m'étais engagée déjà bien avant parce que ma mère avait eu la maladie. Donc, j'étais déjà très fortement engagée parce que je pensais que c'était très utile de pouvoir, avec des tout petites... Au départ, quand j'ai voulu entrer dans la Fondation, j'ai dit à mon amie Véronique de Villèle, qui y était déjà, je lui ai dit, écoute, moi, s'il y a des timbres à coller sur les enveloppes, je viens. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis entrée.
Alors
puis,
vous faites un petit peu plus que coller des timbres sur des enveloppes.
Voilà. Je suis contente de faire plus. J'ai l'impression que je fais quelque chose pour Jean-Pierre aussi.
Bah, c'est tout à fait le cas. Au dernier gala, vous avez même choisi de faire gagner un de ses chapeaux.
Ah oui.
Il était très vivant, j'ai trouvé, pendant ce gala. Pourquoi ce chapeau ?
Ben parce que c'est un chapeau. Jean-Pierre avait toujours des chapeaux. D'ailleurs, on le voit avec le chapeau. Il portait toujours des chapeaux. Il aimait beaucoup les chapeaux. Son chapeau, c'était voilà. Et donc, on l'a mis en vente pour la tombola. Et j'ai été très, très contente parce que c'est un jeune bénévole.
On le voit là sur l'image, le jeune bénévole. Il a pris un seul ticket, il paraît.
Oui, il a pris un seul ticket et il avait comme but en prenant ce ticket, c'était de gagner le chapeau.
C'était un fan, quoi.
Ben oui. Et oui, mais ce qui était formidable, c'est qu'il a gagné le chapeau.
Il a gagné le chapeau, absolument. Oui. Vous aviez envie de nous lire un petit texte,
oui, pour conclure, je voudrais vous lire un petit texte qui résume vraiment, je pense, le sentiment... et le vécu que devraient avoir les aidants. Parce que ça dit, je trouve, parfaitement ce qu'on peut faire, un peu. Ne me demande pas de me rappeler. N'essaie pas de me faire comprendre. Laisse-moi me reposer. Fais-moi savoir que tu es avec moi. Je suis triste, malade et perdue. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi. Ne perds pas patience avec moi. Rappelle-toi que le meilleur de moi est parti. N'abandonne pas. Reste à mes côtés. Aime-moi jusqu'à la fin de ma vie.
C'est magnifique.
Merci.
Merci beaucoup. Alors bon, merci beaucoup pour toutes ces émotions. On sent bien hein, dans toutes ces histoires l'amour, l'envie de faire le mieux possible, d'accompagner. Merci, merci beaucoup Agathe Nathanson-Marielle pour votre investissement aux côtés de la Fondation Recherche Alzheimer.